Donc, Fréquence Mistral est ravie de rencontrer Étienne Klein, qui est à Manosque pour la conférence organisée par la Maison de l'énergie Manosque. Monsieur Klein, en deux mots, la conférence de ce soir, parlons-nous bien de l'énergie, de quoi allez-vous parler ?
Ben, de l'énergie. En fait, moi je suis parti d'une réflexion qu'a faite un jour un prix Nobel de physique qui s'appelait Richard Feynman et qui a dit « la nature ne peut pas être dupée ». C'est-à-dire que même si on dit à propos de l'énergie des choses qui sont scientifiquement fausses, les scénarios qu'on envisagera dans ce cadre-là deviendront impossibles à réaliser concrètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser l'énergie ou garantir sa production sans respecter les lois de la physique. Et donc la question est, qu'est-ce que c'est que l'énergie selon la physique ? Est-ce qu'on en parle bien ? Parce que si on en parle mal, il y a des chances qu'on la pense mal. Et donc mon propos sera de dire d'où vient ce terme ? Par qui a-t-il été inventé? Quelle est son étymologie? Quand est-ce qu'il a fait son entrée dans le champ scientifique? Et comment est-ce qu'on considère aujourd'hui ce qu'est l'énergie en physique?
Vous êtes aussi connu pour avoir une double casquette, d'un côté physicien, de l'autre philosophe. Donc c'est vrai que c'est très intéressant l'approche philosophie des sciences.
Non, moi je ne suis pas philosophe. Hein. Moi je m'intéresse à des mots ou à des concepts qui sont utilisés par les physiciens et par les philosophes. Par exemple, le temps, ça m'intéresse, parce que les physiciens en parlent, mais les philosophes aussi. Mais ils n'en disent pas les mêmes choses. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'ils parlent de la même chose ou pas ? S'ils ne parlent pas de la même chose, pourquoi c'est le même mot ? Donc je m'amuse comme ça. Et le mot énergie est un autre exemple intéressant, parce que c'est un mot qui vient du grec, et qui, à l'époque, avait une polysémie assez fulgurante. Le mot énergie désignait à la fois la vigueur, l'élan, le dynamisme, la force, la puissance, des choses qui sont assez différentes du sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot.
Et je pense que d'une part le mot donc oui, est polysémique dans le dictionnaire et d'autre part on se rapproche même du structuralisme et de la loi linguistique à ce compte-là en fait. Ouais, voilà, du côté Deleuze, Saussure.
C'est pas simplement l'histoire des mots, c'est qu'est-ce que nous avons appris en physique qui nous permet de reprendre leur définition initiale pour voir si au cours du temps et de l'évolution des connaissances, le sens des mots n'a pas été modifié.
Et du coup aujourd'hui, qu'est-ce qu'énergie veut dire pour vous et quels sont les enjeux attenant à l'énergie ?
Ben, c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. L'énergie, c'est se définit par le fait qu'elle se conserve. On peut pas la produire à partir de rien, et on peut pas non plus la faire disparaître. Donc il est impossible de produire de l'énergie, il est impossible d'en consommer, contrairement à ce que le langage courant nous porte à dire. Et la condition pour en avoir, la seule condition pour en avoir, c'est d'en avoir. Il faut déjà en avoir pour pouvoir en avoir et éventuellement transformer la forme. On ne peut pas produire l'énergie à partir de rien et on ne peut pas non plus la faire disparaître. Parce qu'elle se conserve. Il y en a toujours autant au début qu'il y en a à la fin. Et donc les seules choses qu'on peut faire, c'est la déplacer d'un système où elle est vers un autre, où elle n'est pas encore, ou bien changer sa forme.
Et du coup, est-ce que la transformation de l'énergie n'amène pas toujours la création d'externalités négatives ?
On n'en produit pas, on n'en consomme pas, donc on ne fait que produire de l'entropie. C'est-à-dire qu'on désorganise la forme initiale de l'énergie pour lui donner une forme dans laquelle l'énergie est moins facilement disponible. Quand vous avez brûlé un litre d'essence dans votre voiture, à la fin, dans l'univers, il y a autant d'énergie qu'au début. L'énergie s'est conservée. Par contre, au départ, elle était concentrée dans un litre d'essence sous une forme chimique particulière. Il y avait 7 kWh dans ce litre d'essence. À la fin, il y a toujours 7 kWh. Simplement, ils ont permis d'éclairer avec les phares, de chauffer l'air, de chauffer la route. Mais il y a autant d'énergie qu'au départ. Vous n'avez rien consommé du tout. Par contre, vous avez consommé de l'essence.
Est-ce que l'entropie, c'est justement pas la création du monde ? Parce qu'on voit que depuis le début, en fait, on est parti d'un noyau et on est quelque part en train de se...
Pour déjà prouver qu'il y a eu un début. Il faut vérifier que ce qu'on appelle le début n'est pas en fait un moment particulier de l'histoire. Au sens où il y aurait eu un avant. Le Big Bang, c'est pas forcément une singularité avec une grande explosion, ça peut être une transition de phase entre un univers d'avant et l'univers actuel.
C'est un monde qui sont liés en quelque partie au moment où il y a le Big Bang, c'est ça ?
Moi, je ne sais pas si l'univers a une origine. Parce que moi, je prends le mot origine au sérieux. Et dans la langue courante, le mot origine veut dire conclusion. Par exemple, si je vous demande quelle est votre origine, vous allez me parler de vos parents, de la région où vous êtes né, de vos grands-parents, vos ancêtres. C'est-à-dire, vous allez me raconter une histoire dans laquelle vous n'êtes pas présent. Mais donc, vous êtes l'aboutissement. Donc, parler de l'origine de quelqu'un ou de quelque chose, c'est raconter une histoire dans laquelle cette personne ou cette chose ne figure pas, dont elle est, où il est, la conclusion. Et si vous appliquez ce raisonnement à l'origine de l'univers, ben vous arrivez à la conclusion que pour raconter l'origine de l'univers, il faut raconter une histoire qui s'est déroulée avant l'univers, dont l'univers est la conclusion. Et ça, c'est une contradiction dans les termes. Parce que s'il y a un avant l'univers, c'est que l'origine dont vous parlez n'est pas une origine. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus.
Je ne sais pas si vous êtes familier donc, avec Manosque et les enjeux autour de Manosque aujourd'hui. Donc on a ITER et le CEA qui sont donc sur la, en recherche en fusion nucléaire, qui devraient voir son aboutissement en 2028, d'une part. Et l'autre sujet qui concerne le département des Alpes-de-Provence, c'est la question photovoltaïque aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez envie de vous exprimer sur le nucléaire et le photovoltaïque, vu que c'est des enjeux locaux.
Non, mais on voit bien que notre façon de, entre guillemets, produire de l'énergie n'est pas durable. On ne peut pas consommer uniquement des énergies fossiles pour des raisons qui sont liées d'une part au fait qu'elles sont finies en quantité, d'autre part qu'elles ont un effet sur le climat qu'on connaît bien. Et donc il faut procéder à ce qu'on appelle une transition énergétique. Le problème étant que le mot transition, qui suppose qu'on change des choses, n'est pas très précis, puisque comme vous l'avez remarqué, en français et dans d'autres langues d'ailleurs, le sujet du verbe changer, c'est ce qui ne change pas quand on dit qu'il change. Par exemple, si je vous dis que vous avez changé, vous n'avez pas été remplacé par quelqu'un d'autre, c'est toujours vous.
Donc, caractéristiques physiques qui changent.
Vous avez changé, c'est toujours à vous que j'ai affaire à la fin. Donc ce qui a changé, c'est pas vous, c'est quelque chose de vous. Et tant qu'on n'a pas dit ce qui n'a pas changé, quand on a dit qu'on a fait une transition, on n'a quasiment rien dit. Donc pour moi, la question de la transition énergétique, c'est de dire ce qu'on veut conserver. Est-ce que c'est nos modes de vie? Est-ce que c'est la quantité de CO2 dans l'atmosphère? Est-ce que c'est d'autres choses? Et qu'est-ce qu'on doit changer pour pouvoir conserver ce qu'on veut conserver? C'est ça la question. Et la fusion, c'est une piste intéressante, parce que la fusion, c'est un processus nucléaire qui consiste à libérer de l'énergie qui est contenue dans les noyaux d'atomes et à la transformer en chaleur, en électricité. Le photovoltaïque, c'est une autre piste consistant à capter la lumière solaire, n'est accessible et utilisable que quand il y a du soleil. D'accord ? Et donc, c'est des pistes intéressantes pour fabriquer cette transition.
La maison de l'énergie, donc Pascal Epiter, avec qui je me suis entretenue la semaine dernière, disait de manière très intéressante qu'en fait, aujourd'hui, le réseau européen ne supporte les énergies renouvelables que parce que certains pays ont des énergies qui produisent de manière stable. Alors que les énergies renouvelables sont intermittentes.
Voilà, intermittent, donc intermittent, ça veut dire que c'est pas tout le temps là. Quand c'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Sachant qu'on n'arrive pas à stocker l'électricité dans de grandes quantités. Et donc l'intermittence suppose un palliatif qui soit une énergie de secours quand, par exemple, le soleil n'est pas là ou bien quand le vent n'est pas là, si on parle de l'éolien. Et donc les énergies renouvelables nécessitent, par construction même, des énergies non renouvelables. Alors, le nucléaire, je ne sais pas s'il faut le classer non renouvelable ou pas. Mais en tout cas, on a besoin, par exemple, du fossile pour le renouvelable, ne serait-ce que pour amener de Chine les panneaux photovoltaïques.
Les taux rares.
Etc. Voilà, on a besoin de ressources. Donc, c'est un problème compliqué. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre à coup de tweet. Voilà, il faut regarder les choses en détail, c'est très compliqué. Et on doit lutter contre une forme de démagogie, contre ces questions, qui sont liées au fait qu'il y a une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Voilà. Il y a des tweets que je vois passer, écrits par des personnalités politiques de premier rang. C'est très peu de mots, c'est des slogans, et on ne fait pas de la recherche et on ne crée pas un programme d'énergie à grande échelle avec des slogans.
Est-ce que vous êtes au courant du projet qui serait sur les étangs, je crois sur l'étang de Berre, où il y aurait effectivement une radiolyse qui serait faite avec du photovoltaïque qu'on récupérerait pour effectivement faire de l'hydrogène, et cet hydrogène servirait donc après à être réinjecté pour... ça vous semble... C'est intéressant?
Tout me va, à condition qu'on ne dise pas que l'hydrogène est une énergie disponible. Parce que comme vous le dites vous-même, il faut le fabriquer. Il n'existe pas. Donc c'est un moyen de stocker de l'énergie, mais ce n'est pas en soi une énergie qui est présente. Autrement dit, l'hydrogène, il faut le fabriquer par ce que vous avez dit, une électrolyse, ou bien par des voies plus classiques, chimiques par exemple, avec des énergies fossiles. Et donc, il y a eu une époque où on a présenté l'hydrogène comme une nouvelle source d'énergie. Et ça, c'est pas juste, parce qu'il n'existe pas à l'état naturel. Voilà. Donc c'est un peu comme l'électricité, il faut la fabriquer. Et là, ensuite, quand vous faites le bilan, tout va dépendre du procédé que vous avez utilisé pour fabriquer l'hydrogène. Est-ce que vous l'avez fait d'une façon qui émet des gaz à effet de serre? Et quand vous parlez d'électrolyse, dans les étangs de Berre, vous fabriquez comment le courant?
Justement, on parle des panneaux solaires, en fait. On couvre les temps de berre avec des panneaux solaires. Enfin, c'est du photovoltaïque qui va fournir de l'énergie pour faire de la radiolyse.
Il n'y a pas de silver bullet, comme disent les Américains. Il y a une balle en argent. Il n'y a pas une balle qui, une fois qu'elle est tirée, fait le ménage et résout tous les problèmes qui se posent à vous.
Vous disiez qu'on ne combat pas le réchauffement climatique à coup de tweets. Comment vous vous caractérisez aujourd'hui dans votre rôle dans la société ? Est-ce que vous êtes là pour soulever des questions, proposer des réponses, vulgariser, prendre parti, militer, informer ? Comment ? Qui êtes-vous ?
Pour l'instant, je ne suis pas un militant pour une option plutôt qu'une autre. Par contre, je milite pour la diffusion de la connaissance. C'est-à-dire que je pense que la science n'est pas démocratique et elle n'a pas vocation à l'être. On ne décide pas qu'une théorie est juste par un référendum. Elle fait ses preuves autrement que par le suffrage populaire. En revanche, elle est républicaine au sens où c'est une affaire publique. C'est-à-dire que les connaissances scientifiques dans une république, disons, à la française, non communautariste, je veux dire, sont censées pouvoir se diffuser sans obstacle épistémologique. Ah si, épistémologique il y en a, mais sans obstacle politique, philosophique, idéologique, voire religieux. Voilà. Et j'observe que cette diffusion se passe mal. Voilà. Et donc je réfléchis à des façons plus efficaces de transmettre les connaissances à un public qui n'a pas forcément, au cours de ses études, été familiarisé avec certaines notions qui sont essentielles dans ces débats. Par contre, je n'exclus pas de devenir, l'âge venant même de façon cumulative, m'engager dans un militantisme plus politique. Parce que... je ne vois pas pourquoi les gens compétents devraient, et qui ont des positions modérées, devraient ne s'engager que modérément. Je pense que les gens modérés doivent s'engager sans modération, sans quoi les tweets finiront par décider de la vie politique du pays.
Mais alors en termes de compétences et d'engagement, on a par exemple Jean Covici ou...
Ben, chacun a son style. Hein. Moi j'ai un style différent, je connais bien Jean Covici, j'approuve ce qu'il fait. Je trouve qu'il n'est pas toujours diplomate. En tout cas, il a un côté poil à gratter qui est parfois salutaire. Moi, je ne vous aurais pas dit ce que je viens de vous dire si je n'avais pas assisté pour partie aux auditions menées par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la politique de l'énergie en France, notamment la souveraineté, au cours de laquelle ont été interrogés par des membres d'une commission des anciens ministres qui ont pris des décisions très importantes sur l'énergie, sur le nucléaire ou sur d'autres formes d'énergie. Moi, je n'ai pas du tout une conception scolaire de la citoyenneté. Je pense que quelqu'un qui ignore les sciences, qui s'en contrefiche, voire qui les nie, n'est pas un moins bon scientifique qu'un autre. En revanche, si vous êtes nommé ministre dans un secteur dans lequel il y a des composantes scientifiques évidentes, ben, en cachette, vous allez acheter et lire des « que sais-je ». Pour vous former sur les sujets dont vous avez la responsabilité avant de prendre des décisions. Cette série d'auditions qui, personnellement, m'a traumatisé, c'est que certaines personnes ont été ministres, ont pris des décisions très importantes, sans jamais se former au sujet dont elles avaient pour partie la responsabilité. Notamment, on a vu une personnalité interrogée sur la fusion nucléaire qui a dit des choses extravagantes, ou bien sur la radioactivité, etc. Et ça, ça me paraît pas normal. Quand on a des responsabilités, on doit se former à la hauteur de cette responsabilité pour pouvoir prendre des décisions qu'on est capable d'argumenter sans avoir recours au raccourci des tweets.
Donc une démocratie basée sur la compétence, en fait.
Oui, et pas seulement sur les affects. Voilà.
Les enjeux, les stratégies.
Je vois que les affects comptent beaucoup. C'est-à-dire que toutes les formes d'énergie sont entourées de ce qu'on pourrait appeler un halo symbolique, une connotation dans des récits divers auxquels on les associe. Et ce halo symbolique suffit à déterminer le jugement affectif que nous avons sur elle. On aime ou on n'aime pas. Mais la question n'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas. La question, c'est d'abord de connaître la réalité objective et matérielle de ces formes d'énergie et de voir comment on les associe dans un projet permettant aux Français, en l'occurrence, de s'éclairer et d'avoir... de l'électricité chez eux, d'une façon générale. C'est tout.
Et donc vous pensez qu'on peut sortir par le haut de la crise climatique par des avancées techniques, par de la sobriété, par un mix de plusieurs... Vous avez des positions arrêtées sur la question ou pas?
Disons qu'il y a en ce moment en campagne électorale, comme vous le savez. Et voilà, je suis assez vieux, donc je suis capable de dire, en comparant le présent au passé, que je suis interloqué de la médiocrité de la campagne. Voilà. Comment le commentaire des faits divers remplace le projet politique? Comment justement les réactions affectives font croire qu'on a un projet politique? Alors que ce n'est pas le cas. Alors, depuis quand on passe son temps à commenter les faits divers?
Dans la société de spectacle, Internet qui le numérique modifie profondément le... C'est ce qu'on disait, les tweets. Les citoyens et citoyennes n'ont jamais autant lu qu'aujourd'hui, mais lu quoi?
Enfin, la vulgarisation de la connaissance, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que, comme vous dites, c'est peut-être pas forcément uniquement pour les choix de société, c'est aussi pour pouvoir se comprendre soi-même, s'assumer.
Ce qu'on fait dire à la science, par différents canaux, est beaucoup plus massif en quantité que ce que les scientifiques disent. D'accord? Donc c'est ça qui me rend, non pas pessimiste, mais plutôt combatif. Il n'y a que sur la mécanique quantique. Si vous faites par exemple le bilan de la vulgarisation de la physique quantique, hein, je vous le dis, le bilan ou la réponse à la question est-ce que c'est efficace ou pas, la réponse elle est quantique. C'est-à-dire que c'est un succès puisque tout le monde connaît le mot quantique, et c'est un échec parce que personne ne sait dire ce que veut dire ce mot. Hein. Et donc quand une entreprise de cosmétiques vend une crème qu'il qualifie de quantique, tout le monde croit que cette crème a des pouvoirs magiques, qu'elle permet même des miracles. Des plaques à Paris, mais je pense que c'est partout en France, de gens qui vendent une ostéopathie quantique. L'autre jour, j'ai vu de la psychanalyse quantique, etc. Et ça veut dire que la vulgarisation sert à certains pour s'approprier des concepts qui ont un pouvoir magique, dont ils tirent profit au prix d'un marketing parfois bizarre. Voilà. Et ça, ça me déprime.
Une note positive pour la fin?
La note positive, c'est que ça déprime a pour anagramme carpe diem.